France Info.
Bonjour Thomas.
Bonjour Simon.
Et vous vous êtes rendu compte que les arnaques ne sont pas rares. On le sait d'ailleurs, ouais. Dans le milieu du vin, cela dure depuis très longtemps.
Oui, et d'ailleurs, on ignore souvent que la première grande manifestation du début du XXe siècle en France, la plus importante d'entre elles, eh bien, c'est une manifestation de viticulteurs. On est déjà en Occitanie comme le scandale qui aujourd'hui nous agite. Et c'est une manifestation où les viticulteurs se soulevaient à la fois contre la crise du vin et ils ciblaient, eh bien, quoi, la fraude. Alors, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, et c'est ainsi qu'elle s'autoproclamait, hein, Béziers était la capitale mondiale du vin. Oui. La région, au sens large, produisait jusqu'à 45% de la production nationale. Et pour faire face à la surproduction, on avait des vins trafiqués qui commençaient à inonder le marché, accentuant du coup la surproduction et la colère des viticulteurs. Alors les techniques frauduleuses, on les connaissait à l'époque et on les connaît bien encore aujourd'hui. On produisait par exemple du vin à partir de raisins séchés, importés, comme du raisin de Corinthe, des vins allongés à l'eau, on appelle ça des vins mouillés, ou encore des vins chaptalisés, c'est-à-dire des vins auxquels on ajoutait du sucre au mou pour augmenter le degré d'alcool final du vin. Les grandes manifs de 1907 vont d'ailleurs aboutir aux premières lois anti-fraude interdisant le mouillage et encadrant le sucrage du vin. Il s'agissait à l'époque de protéger le vin naturel contre le vin trafiqué. Vous voyez Simon, la question de la fraude sur le vin s'est donc posée très tôt, il y a plus de 100 ans.
Oui, d'ailleurs, les AOC, les appellations d'origine contrôlée qu'on connaît aujourd'hui pour de très nombreuses productions, sont nées d'abord dans le vin.
Oui, et dans l'entre-deux-guerres en particulier, pour protéger la production nationale, et aussi, et c'est vraiment l'un des enjeux du cas qui nous agite aujourd'hui, pour rassurer les consommateurs, oui. Le concept d'appellation d'origine doit tout à un homme qui s'appelle le baron Laroy, qui obtient en justice en 1933 la délimitation de l'appellation très célèbre Châteauneuf du Pape. Et avant de participer, deux ans plus tard, avec un parlementaire de Gironde, à l'élaboration d'une loi qui va instaurer en 1935 le Comité national des appellations d'origine des vins et des eaux de vie. C'est effectivement les appellations d'origine contrôlée. Vous voyez Simon, la question de la qualité et de l'origine du vin a été théoriquement réglée il y a plus de 80 ans.
Mais les scandales n'ont jamais cessé.
Oui, alors il y en a eu vraiment beaucoup. Par exemple, dans les archives, j'ai trouvé qu'en 1960, en Corse, on avait fait du vin sans raisin. Oui, c'est un scandale intéressant. Je sais pas comment on a fait.
D'accord.
Mais en tout cas, ça avait été un scandale assez marquant à l'époque. Oui. Alors plus récemment, dans les années 90, et là on est vraiment sur les questions qui nous agitent aujourd'hui. Par exemple, le marché mondial a vu arriver du champagne partout.
Oui.
Du champagne produit de partout dans le monde. Mais alors c'est pas aussi grave que dans le cas du rosé, parce que dans le cas du rosé actuel, on fait un peu croire qu'il a été produit en France. Le champagne, dans les années 90, on précisait vraiment champagne de Californie, champagne de Brésil, champagne même d'Éthiopie. L'enjeu alors, ça a été d'imposer une appellation champagne à l'échelle mondiale, c'était pas facile. Autre exemple, aux États-Unis, jusqu'en 2005, un viticulteur pouvait produire du Chablis, d'ailleurs je crois que c'est le cas de notre invité au téléphone, du Chablis ou du Sauternes. Depuis cette date, aucun ne peut commencer sa production, mais les anciens producteurs ont obtenu le droit de continuer à commercialiser du Chablis, produit à des milliers de kilomètres et vendu à très bas prix en Chine. Là pour le coup, c'est un vrai problème pour les producteurs de Chablis français. Mais la fraude n'est pas qu'étrangère, elle ne concerne pas que des petits vins. Le scandale de vins mélangés et de fausses étiquettes a touché il y a quelques années une prestigieuse maison bourguignonne de Nuits-Saint-Georges. Et quant aux bonnes vieilles pratiques, elles n'ont pas disparu avec la loi de 1907 que j'évoquais au début. Loin de là, il y a quelques jours seulement, c'est le 21 juin dernier, Château Giscourt, grand cru classé du Médoc, a sévèrement été condamné pour chaptalisation frauduleuse. Chaptalisation, si vous avez bien retenu, c'est mettre du sucre
dans
le vin. Voilà. Et bien ce cru classé de Margaux avait ajouté des quantités très importantes de sucre dans les cuves et a été condamné pour cela. C'était il y a 3 semaines seulement.
Merci beaucoup Thomas Sneguerov pour ce tour d'horizon assez impressionnant des arnaques dans le milieu du vin à travers les âges, à travers les décennies.